Bonjour Anaïs Kia.
Bonjour Xavier, bonjour à tous aujourd'hui, et toutes,
et toutes
celles qui nous écoutent.
Bah oui, Anaïs dans le journal de l'histoire, une série documentaire consacrée à l'histoire de Cuba.
Cuba, la révolution et le monde de Mick Gold revient sur 50 ans de relations internationales de l'île. En 1959, les révolutionnaires prennent le pouvoir et deviennent bientôt célèbres dans le monde entier. Tout le monde le sait. C'est d'ailleurs bien là le caractère extraordinaire de l'histoire de Cuba, une petite île qui devient un point névralgique de la guerre froide et retient l'attention des plus grandes puissances, régulièrement contraintes de bousculer leur agenda par les prises de position de Fidel Castro. Parce que dès les premières années, le nouveau régime cubain intéresse l'Union soviétique et défie leur gigantesque voisin, les États-Unis. Les Caraïbes sont en ligne de mire. À commencer par la tentative catastrophique de la baie des cochons, orchestrée par l'administration Kennedy en 1961, qui envoie 1300 opposants cubains entraînés et armés pour mettre fin à l'implantation du communisme à peine à 150 km de leur côte. Bientôt suivie de la crise des missiles soviétiques installés clandestinement sur l'île, mais bien vite repérée, qui a donné des sueurs froides au monde entier et qui a fait apparaître un beau téléphone rouge dans les bureaux de la Maison Blanche et du Kremlin en 1962.
La noche del 27 al 28 octubre.
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, nous étions épuisés. Nous avions creusé des tranchées toute la journée. Quand nous sommes allés nous coucher, quelqu'un m'a demandé « Carlos, toi qui as lu un manuel de l'armée américaine sur la guerre nucléaire, qu'est-ce qu'il va se passer ce soir en cas d'attaque ?» J'ai répondu « Eh bien, d'après ce que j'ai lu, il y aura une lumière aveuglante. » Puis nous allons ressentir une immense chaleur avant de mourir. La devise « la patrie ou la mort », cela voulait bien dire ce que ça voulait dire.
Fidel Castro était pourtant allé à la rencontre du président Nixon à Washington, où la condescendance et le dialogue de sourds avaient bien vite achevé de jeter les Cubains dans les bras de Moscou. Kennedy décrète l'embargo, toujours en cours aujourd'hui, pour asphyxier l'île. Mais cette révolution insulaire porte bien au-delà de ses frontières et mène le mouvement des non-alignés des pays du tiers-monde en mal d'autonomie, coincés entre les logiques de guerre froide et les poussières visqueuses des empires coloniaux effondrés. Cuba soutient l'Algérie en guerre pour son indépendance et Lakhdar Brahimi, représentant du gouvernement provisoire de la République algérienne, témoigne de sa visite à La Havane où il poirote une semaine entière avant que Fidel Castro ne lui accorde audience.
Un jour, j'ai fini par dire « Écoutez, il y a un avion demain, il faut que je le prenne. » Alors, à 1h du matin, quelqu'un frappe à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ouvre et je vois Fidel Castro en personne qui se tient là. J'ai voulu refermer la porte pour m'habiller. J'étais en pyjama. Mais il a dit « Non, attends ». Il est entré et nous avons parlé pendant presque 2 heures.
L'exportation de la révolution à travers le monde devient un credo, mais ne rencontre pas toujours le succès escompté. À commencer par la Bolivie ou le Congo, où les conceptions révolutionnaires s'échouent sur les histoires nationales. La nation et la révolution, ça n'est justement pas une évidence partout.
Nous avions sous-estimé l'aspect tribal. Cuba est un petit pays et nous ne sommes pas organisés par groupe ethnique. Nous sommes simplement un peuple qui mêle plusieurs origines. Nous avons une conception très claire de la nation. Nous défendons Cuba car nous sommes cubains. Au Congo, c'était très difficile car chaque tribu se battait pour ses intérêts propres et son petit bout de terre. L'idée de nation n'avait aucun sens pour eux.
Cuba gagne malgré tout dans son engagement contre l'Afrique du Sud en Angola et parvient à se faire admettre à la table des négociateurs aux grandes dames des États-Unis qui figurent amèrement sur les très nombreuses images tournées pour l'occasion. On pourra regretter le déséquilibre flagrant entre les archives américaines et les autres, un déséquilibre devenu monnaie courante dans les documentaires d'histoire, lié à la mise à disposition très généreuse de leurs archives par les États-Unis, mais Mick Gold parvient quand même à nous raconter cette histoire de Cuba vue de l'extérieur. On attend un équivalent pour l'histoire intérieure de Cuba, des opposants au régime et de ceux qui le soutiennent. Affaire à suivre.
Affaire à suivre. Merci beaucoup Anaïs Kien. Et pour assouvir votre curiosité, vous pouvez réécouter le journal de l'histoire de ce jour et tous les autres sur la page internet du cours de l'histoire, du journal de l'histoire et profiter des liens qui sont partagés et illustrés chaque jour par Camille André, notre attachée d'émission. Tout ça, c'est sur franceculture.fr.